France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Le Loiret et les initiatives qui en ressortent peuvent nous conduire bien au-delà, et c'est le cas aujourd'hui avec l'association Graines d'Espérance Bénin, née en 2010 à Beaugency. À Beaugency, où nous rejoindrons tout à l'heure Nicolas Stoufflet pour le jeu des 1000 euros. Tout naît d'une enseignante qui préfère consacrer ses vacances à des voyages solidaires en Afrique plutôt que de se ramollir au soleil d'Ibiza. Les actions depuis plus de 10 ans ciblent les enfants démunis et l'association court après les financements et les bénévoles, on va en parler. On parle également dans la deuxième séquence avec Régis Gautreau d'une invention. Il est créateur de la chaussette 100% française qui répond au nom de Berthe au grand pied, ça promet.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
François Baudouin, bonjour.
Bonjour Philippe.
Avec vous, nous voyageons vers le Bénin. Graine d'espérance que l'on doit à une personne extraordinaire, enseignante Marie Péchard, qui au cours de voyages solidaires a découvert la réalité des enfants au Bénin.
Donc effectivement, Madame Péchard, qui est toujours présidente, mais qui est empêchée aujourd'hui. Donc Madame Péchard a voyagé pendant quelques années là-bas pour faire du ce qu'on appelait un peu, vous voyez, le tourisme solidaire. Et elle a été sensibilisée par les conditions de scolarisation des enfants du Bénin. Elle s'est rendue compte que beaucoup d'enfants ne pouvaient pas aller à l'école parce qu'ils n'avaient pas de quoi se nourrir pendant la journée complète, puisque souvent ils habitent un peu loin des centres où il y a des écoles. Et ils n'avaient pas non plus l'argent pour acheter leur tenue scolaire, pour acheter leur fourniture. Mmh. Puis après, elle a créé l'association, voilà, ouais, en 2010.
Et pourquoi le choix du village d'Adamé à Dato?
Alors, je pense que c'est le hasard, sans doute, les rencontres qu'elle a faites avec les personnes. Elle a senti sans doute qu'il y avait aussi sur place des personnes très très motivées qui avaient envie de l'aider aussi, parce que les Béninois sont aussi s'entraident entre eux. Hein, il y a pas que heureusement, parce que donc nous avons effectivement sur place un référent qui est un monsieur qu'on va dire un peu assistant social. Donc c'est un peu comme ça que ça a fonctionné avec les enseignants aussi sur place.
On va donner des chiffres pour avoir un ordre d'idée des nécessités. Oui, 50 euros par an pour un enfant d'une école primaire, on peut le parrainer à l'année.
Tout à fait, exactement. Alors le parrainage consiste à verser une somme de 50 euros par an. Le parrain peut connaître ou pas l'enfant. On n'oblige pas les parrains à avoir un lien direct avec l'enfant. Il peut s'il le souhaite. Et ces 50 euros effectivement permettent à l'enfant d'acheter ses fournitures scolaires pour l'année, ainsi que sa tenue qui est obligatoire dans les écoles publiques du Bénin. Mmh. Et également, ça lui permet de manger une fois par jour. Et pour les collégiens, on est à 85 euros parce qu'il y a un peu plus de frais, et ainsi que pour les apprentis. Nous avons donc parrainé 23 enfants dans le primaire, et nous avons parrainé 18 collégiens, 8 apprentis. Et nous tenons beaucoup à aussi encourager l'éducation des filles. Malheureusement, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, les jeunes filles sont très vite mariées. Enfin voilà, on n'encourage pas tellement la scolarisation des enfants. Et donc nous avons 3 filles qui sont en apprentissage couture, 2 qui sont en apprentissage de secrétariat comptabilité, et nous avons 3 garçons qui sont en apprentissage également maçonnerie, électricité et maintenance informatique.
Oui. Alors François, on ne pourra pas tout dire, mais je signale que vous aidez aussi le village en construction d'un puits, d'un château d'eau, d'un jardin potager pédagogique. Voilà. Mais la question que je voulais vous poser, c'est d'un côté il y a les enfants, mais de l'autre côté il y a les parents. Quid des parents?
Alors, les parents sont des personnes qui n'ont pas toujours le moyen de travailler, qui ne trouvent pas facilement du travail. Alors nous encourageons aussi certaines familles à créer leur propre activité génératrice de revenus. On a encouragé la création d'un groupement de femmes qui fabriquent du savon artisanal et que nous vendons lorsque nous faisons des activités ici en France. Les parents sont très partie prenante aussi dans le projet dont vous avez parlé, jardin pédagogique, etc. Mmh. Donc ça a été le grand chantier de ces deux dernières années, 2019, 2020, 2021. Sauf que bon, bah voilà, on a été quand même très très ennuyé par la pandémie mondiale, ce qui fait que eh bien on n'a pas pu aller là-bas sur place, parce que nous allons sur place, nous allons nous-mêmes rencontrer les familles, nous allons nous-mêmes mettre en place les projets et nous y allons à nos frais, pas l'association qui paye.
Et comme vous le disiez, à vos frais, alors comment faites-vous ?
Alors les parrains, bien sûr, ce sont des personnes qui sont adhérentes ou pas d'ailleurs de l'association. Nous avons des dons aussi et nous faisons des manifestations ici en France pour pouvoir financer un peu tous ces projets. Comme, par exemple, nous avons organisé dans les années passées des lotos, des concerts, nous avons un organisme qui tous les ans, même parfois deux fois dans l'année, offre un concert. Alors on négocie les prix avec les artistes qui viennent, hein, les musiciens ou les comédiens, puisque nous avons aussi fait venir une troupe de théâtre. Nous avons aussi la chance, et là on remercie vivement la municipalité de Beaugency, parce que nous avons aussi une exposition-vente tous les ans, au moment de Noël, pour financer les projets. Donc, en vendant de l'artisanat.
Et une dernière chose, évidemment, Graines d'Espérance Bénin recherche toujours des bénévoles de nouvelles forces vives pour participer à cette dynamique d'accompagnement des projets pour le Bénin. N'hésitez pas à aller les rejoindre. Je souhaite pour cette nouvelle année, François, de voir beaucoup de sourires sur le visage des enfants et en particulier de ces enfants béninois. Merci pour eux.
Merci à vous, Philippe. Merci beaucoup.
France Inter, carnet de campagne.
Il était une époque où certains départements organisaient une consultation publique afin de décider du nom de leurs habitants. Dans le Loiret, cette consultation débouchait en 2013 sur le nom de Loiretain, alors que circulaient d'autres propositions comme les Ligéritains, ne pas confondre avec les Ligériens, habitants de la Loire. C'est difficile de s'y retrouver à la longue, d'autant que le gentilé n'a pas vraiment beaucoup de portée sur les identités locales. Bref, pour ajouter un peu de confusion, je vous présente les ateliers Ligétoriens. Nous sommes à Tavers, dans l'agglomération de Beaugency, tiens, encore une fois, dont les habitants sont les Balzanciens. Ça sonne un peu ancien. Plus sérieusement, les ateliers Ligétoriens sont nés d'une première étude sur un projet de ressourcerie en 2016. Grâce à un financement régional, une chargée d'études a été recrutée afin d'évaluer la faisabilité du projet. Et puis au fur et à mesure, des partenariats ont été passés avec des associations caritatives, des ateliers chantiers d'insertion, des acteurs publics de l'accompagnement social et puis des collectivités compétentes en matière de gestion des déchets. Et les premières collectes hebdomadaires ont été organisées en complément de l'ouverture d'une boutique. 4 ans plus tard, les ateliers salariés, une dizaine de personnes qui étaient privées d'emploi pour assurer le recyclage, la vente en ligne et l'animation de la boutique. Actuellement, un tiers-lieu est en cours de développement. Les ateliers éditent aussi une gazette d'information et leur site témoigne de la dynamique insufflée par cette mobilisation autour de la gestion des déchets et la revalorisation des objets. Je retiens par exemple des citations comme celle d'Olivier. Le bonheur, c'est de continuer de désirer ce que l'on possède déjà. J'aime beaucoup. Ou celle de Véronique qui va de son jeu de mots. J'y jette rien, ma poubelle est plus belle. Les ateliers ligetterien.org pour l'adresse. Régis Gautreau, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Berthe a 22 ans ?
Oui, bientôt 23.
Berthe au grand pied. Alors évidemment, vous avez choisi le nom qu'on retient facilement. Que s'est-il passé il y a 22 ans, bientôt 23, pour que vous lanciez dans la création de chaussettes de haute facture, des chaussettes, or il n'y a pas que des chaussettes aujourd'hui, mais des chaussettes 100% made in France.
Oui, en fait, si vous voulez, la vie est vraiment absolument curieuse. Je suis arrivé dans le monde de la chaussette par accident, hein. J'avais des copains commerçants quand j'étais gamin avec qui je travaillais, qui étaient commerçants et qui avaient des disciplines. L'un vendait des vêtements, l'autre la bagagerie et l'autre des bijoux. Et je voulais rester avec eux parce qu'il y avait une très bonne ambiance et voilà. Et ils m'ont dit, tu veux rester avec nous, ok, mais donc tu vas commercer des chaussettes, faut pas nous embêter. Alors j'aurais dit, les gars, commercer des chaussettes, ma maman va pleurer. Hein. Alors j'ai commencé par vendre des marques un peu élitistes comme Dédé, Wolford, Chantal Thomas, en collant aussi. Mmh. Et puis j'ai créé Berthe Grandpied le 4 juin 99, marque pas déposée, donc j'ai des anges. C'est la mère de Charlemagne, donc, qui est Pépin-le-Bref. Elle a vécu en 750. Et j'ai déposé la marque, vous allez rire, au pluriel, sciemment, parce que la vraie Berthe Grandpied avait un pied beau, aurait eu un pied beau. Sauf que je faisais les marchés il y a 22 ans, les marchés, hein, d'accord. Mmh. Avec une marque comme ça, je me suis dit, si jamais au singulier, on va croire que je suis un culte, et avec une faute d'orthographe.
Voilà. D'accord.
Donc j'ai mis au pluriel.
Ouais. Comment on passe à la phase suivante, qui est vraiment une phase de création, de production et de diffusion quand même à grande échelle?
Si vous voulez, rien n'était écrit sur papier, et tout était d'ailleurs absolument impossible à faire. Il y a 22 ans, je vous rappelle que Made in France était vraiment has-been,
ouais.
Tout le monde partait en Chine, que la chaussette n'était vraiment pas considérée en France, elle l'est que depuis 5-6 ans réellement. Voilà, donc je suis un rêveur un peu un audacieux et très naïf. Et en réalité, j'ai voulu, si vous voulez, lancer ma marque de chaussettes Made in France avec des vrais entrepreneurs. Alors, j'ai fait appel à différents fabricants, et il y en a un, c'est Perrin, la manufacture Perrin qui se situe à Montsolémy, qui était la clé de ce lancement, parce qu'elle avait, un, le savoir-faire suffisant parce qu'il voulait faire du haut de gamme en chaussettes, et deux, elle gérait la force de distribution avec des représentants intégrés dans l'usine. Et donc, j'ai montré mes créations, et puis on a lancé cette aventure ensemble au départ, en tout cas.
Alors, vous avez élargi la gamme de propositions, et toujours en frappant à la porte de maisons historiques en France.
Moi, si vous voulez, la clé, à mon sens, c'est de s'entourer des meilleurs. Et donc j'ai pris Perrin, pourquoi? Ce sont les meilleurs fabricants de chaussettes en France. J'ai pris, l'année qui suivait, on a pris Sotexmi, fabricant de collants dans le sud de la France. Très belle petite manufacture française, voilà, extraordinaire dans les Cévennes, si vous voulez. Ce sont les meilleurs. Et puis après, on va continuer. Donc j'ai pris récemment, il y a 6 ans, j'ai choisi Royal Mer, les meilleurs en tricotage de pulls à côté de Nantes, à la rue Grippière. Le Made in France aujourd'hui, oui. Si et seulement si on fabrique des produits comme il y a 40 ans en arrière, qui a un vrai savoir-faire, des vraies matières, une vraie application, si c'est 100% fabriqué en France, et enfin, il faut que ce soit sexy. Si c'est moche, c'est mort.
Comment rassurer une clientèle potentielle en disant, certes c'est du Made in France, mais ça ne va pas faire nécessairement de trous dans votre portefeuille?
Oh, je dirais que c'est assez simple. Je pense que les gens, on a tous besoin de vérité. C'est les 22 ans... que je suis dans ces usines tout constamment. Je suis aussi encore sur le marché Angers, Nantes, Pierre-Yac-sur-Mer, etc. Imaginez-vous quand même tout le temps. C'est aussi mon laboratoire. Donc je capte l'air du temps avec mes consommateurs. Je suis avec tous ces industriels qui sont passionnants. Et au bout du compte, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que on a un devoir d'excellence aujourd'hui sur faire du Made in France. Berthe Grandpied est au-dessus du marché en termes de prix. On vend des chaussettes à 24 euros, la paire de chaussettes. Mmh. Vous allez en surface, il y en a un kilo pour celui-là. En grande surface, il y en a un kilo pour celui-là. Mais quand on explique la fabrication, les étapes de fabrication et la meilleure pédagogie, on l'a trouvé, c'est de s'inscrire dans le tourisme industriel. On fait visiter nos usines aujourd'hui. Quand vous visitez ces usines, vous êtes époustouflés, un, par l'organisation, deux, par les humains. Voilà, il y a quand même 100 personnes chez Perrin, 65 chez Royal Mer, et trois, par l'application de la production. J'ajouterais qu'il y a un piège. Ma grand-mère me disait dans le temps, l'essayer, c'est l'adopter. Alors, on s'emploie depuis 22 ans à faire essayer à des Philippe Bertrand, des chaussettes Berthe Grandpied. Phase 1, il trouve ça un peu cher, mais sous le sapin, c'est génial. Et phase 2, il revient tout le temps, parce qu'il adore. Pourquoi? Parce que c'est confortable, c'est résistant, et tout le monde les remarque.
J'ai oublié de citer les sneakers, quand même, Berthe Grandpied.
Ça, c'est un gros projet que tu n'aurais pas dû faire sur papier, parce que c'est un peu dangereux de se lancer dans les chaussures.
Un petit peu,
donc,
oui.
Je l'ai fait.
Ouais.
Ça me stimule. Et en plus, j'ai une belle manufacture à côté de chez moi, à Mont-Jean-sur-Loire. Voilà. La manufacture. Et là, j'ai choisi de faire des sneakers Berthe Grandpied, mais en cuir, pleine fleur. Enfin, voilà. Et je suis ravi. On a produit plus de 4000 paires à nos jours, en moins de 2 ans. Donc, c'est super, quoi.
Le résultat, c'est quand même le maintien de plus de 300 personnes au travail. Allez visiter notre chère Berthe Grandpied, donc au pluriel, hein, pour les grands pieds, berthegrandpied.com. Merci, Régis.
Merci beaucoup à vous, Philippe Bertrand. Merci beaucoup.
Un petit mot sur l'association Duramen, dont le siège est à Orléans. Le Duramen désigne la partie centrale du bois la plus ancienne. Née en 2015, elle prend encore plus son sens actuellement puisqu'elle soutient financièrement des projets de plantation forestière en région Centre-Val-de-Loire au nom de la biodiversité, de la réduction de l'impact du réchauffement climatique aussi sur les écosystèmes, et puis au nom des emplois générés par la gestion forestière. Sur la base d'appels au mécénat auprès d'entreprises de la région, de vagues vague de crowdfunding régulière auprès des particuliers, elle réalise des plantations dans les 6 départements de la région, à l'image du projet Le Chautet dans le Cher, qui prévoit de planter 15 000 arbres sur les 15 hectares d'une parcelle d'arbres fruitiers laissés à l'abandon. Les solutions envisagées, évidemment, passent par une mixité des essences. En l'occurrence, dans le Cher, il s'agira de chêne, de douglas et de pin maritime. L'association rappelle les raisons de planter en France. On plante d'abord 2 fois moins d'arbres depuis les années 90. Les aides publiques ont chuté, paraît-il qu'il n'y en a plus, d'ailleurs, en région Centre-Val-de-Loire. Les forêts ont moins le temps de s'adapter au changement climatique, ce qui impose d'utiliser des essences plus résilientes. Il y a la chenille processionnaire du pin qui gagne du terrain, qui fait des ravages. Et puis, du point de vue économique, je vous rappelle que la filière bois-forêt en France, c'est 450 000 emplois. Duramen.org pour l'adresse.